Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Je prends le pari que nous n'allons pas parler pour ne rien dire, comme Raymond DeVos l'annonce. Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Et bonjour à mon invité, bonjour. Rudy Iovino. Vous allez nous parler d'une initiative, la création d'un ambitieux cercle de réflexion et de contribution au débat public qui, à première vue, je dis bien à première vue, ne semble pas avoir grand-chose avec votre parcours. Mais peut-être vous démentirez ce jugement hâtif. Vous êtes une figure du monde patronal et entrepreneurial montpelliérain, d'abord à la tête de la société de métallurgie familiale, puis dans le domaine de l'aménagement et de la promotion immobilière. Vous avez présidé successivement le Centre des jeunes dirigeants, le MEDEF et la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Mais avant de découvrir le projet que vous incarnez, racontez-nous donc votre Montpellier. Parce que vous n'êtes pas un Montpellier de la veille. Quels sont les lieux, qui figurent ou pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement à Montpellier, auxquels vous êtes attaché?
Alors... Attaché à Montpellier, on ne peut que l'être, déjà parce que c'est une ville qui est quand même attirante par tout son savoir, son accueil. Et moi, mon histoire de petit Sicilien émigré, et en tout cas mon grand-père, on a été quand même bien accueillis à Montpellier. Et je crois que c'est un petit peu l'ADN de la ville.
C'était voilà. à la fin des années 50 hein.
Alors... L'histoire de la Sicile, c'est mon arrière-grand-père qui part d'abord aux États-Unis pour essayer de gagner sa vie, hein,
comme
non pas faire fortune,
comme
beaucoup
Italiens.
D'Italiens l'ont fait. Et puis il arrive aux États-Unis, et puis bon, voilà, ça l'a pas fait. C'était pas un territoire qui y a plu. Ici, il ne s'est pas senti bien accueilli. Et il est retourné en Sicile et a été de l'autre côté, en Tunisie. Voilà, donc toute l'histoire démarre de la Tunisie et on revient à... mes parents reviennent en 58. Montpellier, pourquoi? Ben parce que c'est la faculté de médecine.
Ah, oui.
Puis c'est l'accueil aussi. Et j'ai un oncle, Robert Iovino, qui a été chirurgien dentiste sur Montpellier, qui a fait ses études ici. Donc voilà.
Qui était déjà installé ici, donc.
Donc voilà. Et après, ma mère a voulu retourner en Tunisie accoucher. Donc je suis né d'accord. En 1961 en Tunisie, mais je n'y ai passé que deux mois peut-être, voilà.
Et vous êtes à Montpellier,
donc je suis
pur jus, après ce détour par la Tunisie.
Voilà, et ça a démontré mon histoire finalement que Montpellier est bien une terre d'accueil.
Alors, est-ce qu'il y a des lieux, bon, je sais pas quoi, des rues, des places, des endroits particuliers là, pas nécessairement les plus connus là que voilà qui pour
oui,
vous sont,
y a tout, y a toujours,
que vous conseillez peut-être à vos amis de oui. passage.
Alors, moi, je pense, je suis assez amoureux de la place de la Canourgue,
oui.
Qui est quand même chargée d'histoire, puisqu'on
oui.
peut même dire que c'est presque le départ
de
Montpellier. Je trouve qu'elle est, il y a une forme de diversité, et on le voit avec le bar de la Coquille, qui est quand même un bar assez populaire, où on va rencontrer ses amis, avocats, mais le gars qui travaille sur le chantier d'à côté, et à la fois aussi les chefs de la gastronomie, en tout cas
oui,
avec les Pourcelles, cet hôtel 5 étoiles. Et je trouve que cette place, elle a une certaine fraîcheur, ouais. tous ces arbres, et puis son histoire aussi, la mairie. J'ai été juge au tribunal des prud'hommes.
De commerce
aussi.
Qui était là, oui.
Ouais, des prud'hommes, c'était. Mmh. Et donc, dans l'ancienne mairie, siégeait le tribunal des prud'hommes.
Alors, l'ancienne.
Donc, je l'ai côtoyé.
C'est pas celle qui est à côté
oui,
du polygone, c'est antérieur encore
voilà,
pour les jeunes auditeurs de Divergence.
Tout hein. à fait.
D'accord. Alors, comme vous le savez, vous l'avez vécu, vous en avez été un des acteurs, la ville a beaucoup changé, forte croissance démographique, forte croissance urbaine, forte croissance économique, même s'il y a des aspects moins reluisants. Quel jugement vous portez sur cette trajectoire de Montpellier? Parce que les avis sont partagés là-dessus.
Moi, je pense qu'elle ne fait que continuer son destin, finalement. Mm-hmm. C'est une, comme on l'a dit, hein, depuis sa création, c'est une ville qui est quand même récente, qui a 1000 ans. Et c'est une ville où on a su, cosmopolite, où on a su gérer la diversité. Il y a eu les facultés depuis l'édit de Guillaume VIII, hein, qui a dit, ben, écoutez, tout le monde peut venir, toutefois, oui. Et il a créé la fac de médecine.
C'est-à-dire, voilà, une tradition dit, d'ouverture, de brassage de culture.
Oui, bien sûr. Et ce côté cosmopolite, je pense qu'il fait aussi la créativité. Je pense qu'à Montpellier, est source d'inspiration, finalement. Et toute histoire démarre à la base par une inspiration.
Donc, vous avez dit que vous arriviez d'ailleurs, encore que vous n'ayez que quelques mois à l'époque.
Oui.
Mais ce qui est frappant dans vos propos, c'est que ce flambeau, je dirais, de la reconnaissance de l'histoire, hein, vous le brandissez aussi, même si bon, vous n'êtes pas étranger, j'imagine, à la modernité telle qu'elle s'est manifestée.
Je pense
ici.
Que l'histoire et la modernité ne s'opposent pas. On le voit très bien, moi qui suis un passionné de design et d'architecture. Vous voyez tous ces grands hôtels à Montpellier qui ont pu être réaménagés d'une manière contemporaine, ça fait aussi de très belles choses. Donc il n'y a pas d'opposition entre passé, présent et futur.
Donc, en tout cas, bon, ceux des Montpellierains, vous en connaissez, j'imagine, qui se sentent un peu dépossédés de ce qu'était la ville à 30 ou 40 ans, vous n'avez pas cet état d'esprit?
Non, pas du tout, au contraire. Je crois qu'elle mène son chemin. Il y a eu des pauses, des temps d'arrêt. On en avait certainement besoin, mais je crois que voilà, on a connu les années 90 avec Georges Frêche, au moment où on était quand même en concurrence entre Nîmes et Béziers, et on a fait de Montpellier ce qu'est Montpellier aujourd'hui, donc on ne peut qu'être...
Avec l'aide active de l'État qui a implanté quand même quelques grands centres de recherche et favorisé l'installation de grandes entreprises.
Oui. Et puis c'était Montpellier la surdouée, c'est-à-dire qu'on a continué l'histoire, hein, puisque c'est sa base en fait, elle repose son ADN, c'est ça, c'est la surdouée. Voilà. Et toutes les entreprises qui se développent ici, on le voit bien, on a l'impression que tout réussit. Donc il y fait bon vivre, on est bien accueilli, et puis on a aussi tous les salariés qui permettent aux gens de développer un projet, de partir d'une idée, d'avoir des ambitions et de les mener à terme. Donc, après, la ville change. Mais vous savez, les gens, on peut aujourd'hui, on entend les gens rouspéter un petit peu sur
Quand il y a
travaux,
des chantiers, c'est pas sans conséquences.
Mais ça a toujours été Montpellier. Et heureusement que ça se fait. Je ne veux pas revenir... Et en plus, je vous ai dit que je ne parlais pas beaucoup, mais rappelez-vous, quand le polygone a été construit, tous les commerçants hurlaient.
Ça n'a pas suscité d'enthousiasme chez les commerçants de l'époque.
Mais de l'époque, voilà. Ouais, et aujourd'hui, on est content qu'il y ait le polygone, parce que quand il y a eu Odysseum, le polygone a quand même sauvé le centre-ville. Quand on a passé de toutes les rues en le centre-ville piétonnier, tout le monde râlait. Mais aujourd'hui, ils remettaient les voitures en ville et vous verrez s'ils ne râleront pas. Voilà, donc il faut du changement. Le changement fait peur. Mais en même temps, c'est ça. Les maires sont élus pour mener le projet pour lequel ils ont été élus. On va les élire et puis après, on rouspète.
D'accord.
C'est peut-être une singularité montpelliéraine, je ne sais pas.
Probablement pas. Alors, on va en venir à la raison pour laquelle vous venez à nous. Mais vous avez parlé de savoir, de rencontres. Il est temps de parler de « nous ». Alors, non pas « nous », le pronom personnel avec un « s » muet, mais « nous » avec le « s » prononcé, donc, et un accent circonflexe sur le « u ». Alors, évitons un détour par Wikipédia et dites-nous, pour commencer, pourquoi a été choisie cette dénomination un peu bizarre et en tout cas innovante.
Parce que le « nous » en philosophie est... dans l'Antiquité grecque, c'était créer de l'intelligence, en fait, de l'intellect, en fait, d'accord. Et donc c'était Anaxagore, hein, qui était un philosophe, et qui dit, voilà, le nous gouvernerait le monde, en fait. Voilà. Donc ça a été un concept qui permettait de créer du savoir. Voilà. Bon. Étant à Montpellier, ville du savoir, on s'est dit, ben, écoutez, nous, ça nous plaisait bien. Après, c'était... Enfin, c'est un peu dur à porter parce que le « nous », c'est l'intellectuel, mais divin, presque.
Donc, ah oui, avec un statut très important, très élevé.
Très important. Mais bon, je pense que ça correspondait à ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que il y a aussi y a plein d'associations dans Montpellier. Et nous, c'était de dire... Aujourd'hui, il y a quand même de l'anxiété. On voit bien que les gens, avec il y a eu le Covid, les gilets jaunes...
Les difficultés sociales.
Les difficultés une crise sociales, etc. Et je crois qu'on se devait de fouiller notre environnement.
C'est ça le facteur déclenchant
Oui. Oui, je crois que c'est ça. Oui, il y a des sujets aussi importants que ceux qu'on a pu mettre aujourd'hui, mais on en parlera après à l'étude. C'est des sujets qui peuvent créer une certaine anxiété. On n'a pas non plus comme volonté de donner des solutions.
Alors, vous allez résumer un peu de mots quels sont les objectifs, et après on va aller regarder un peu de détail. Au bout du compte, alors d'abord, prenons les choses dans l'ordre. Vous l'avez un peu évoqué. Quel est le constat ou l'analyse que vous avez faite sur l'état du débat public dans notre ville qui vous ont conduit à réfléchir et à créer ce cercle de réflexion, cet espace de débat ?
Le constat, ça a été de dire que déjà, il n'y a plus de débat en France, finalement. On n'ose pas parler de plein de sujets. Le débat ne se fait plus. Il va se faire dans la polémique.
L'approximation ou dans le...
Oui, bien sûr. On essaye souvent, au travers du débat, de faire passer et de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est de la controverse. Controverse ne voulant pas dire polémique. On n'est pas là pour se disputer. Mais c'est de dire, prenant les sujets aussi des sujets de société, aussi importants qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais comme vous l'avez dit, on y reviendra, on n'a pas la prétention de dire on va trouver une solution en disant est-ce que l'intelligence artificielle est augmentatif ou diminutif pour l'homme. On va essayer de poser
le vrai sujet sur la table, et l'aborder avec rigueur. Alors, vous avez parlé de controverse, je prends un mot parce que ce mot est parfois mal compris. Discussion argumentée, dit le dictionnaire.
Oui.
Est-ce que cette idée de la discussion, de l'échange de points de vue argumentée, c'est-à-dire c'est pas à l'emporte-pièce, vous reconnaissez aussi également dans cette définition ?
Ben, on s'y connaît, mais l'intelligence, j'ai pas prétention de dire que je suis un intellectuel, bien au contraire. Je suis un autodidacte. J'ai construit ma vie en m'intéressant à tous les sujets.
Il y a au moins de la curiosité intellectuelle.
Voilà. Exactement. Mais je crois que par nature, on est tous. Après, il y en a qui ont peur d'aller essayer de rentrer dans le débat, d'essayer de comprendre les choses. Ça fait pas toujours plaisir, parce qu'on peut être d'un avis différent d'un autre. Je crois que l'expérience nous apprend que ben on est là aussi pour écouter et qu'il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis. Voilà. Donc l'intérêt, c'était quoi ? C'est de faire... on le dit, producteurs d'intelligence collective. C'est-à-dire que quand on est tous ensemble, avec nos avis qui peuvent être des fois différents, voire divergents, on arrive à construire quelque chose, ou en tout cas, à analyser le
avoir
le
une meilleure compréhension du sujet.
Le principe du nous, en fait. Ouais. Le nous, c'était pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'attendre, mais c'était de dire à partir d'un fait, d'un ressenti, on va produire, l'intellectuel va produire, et ils sont servis aussi pour mener des guerres. Hein, la guerre de Troie, etc. C'était ça, le nous. Hein.
Alors, si j'ai bien compris, c'est pas seulement Rudy Iovino, président de l'association, mais c'est un quatuor qui a été à l'origine
d'amis.
De ce projet.
D'amis, je
alors,
précise.
Si vous pouvez les présenter aux auditeurs, là, les trois autres compères.
Alors, je vais commencer par Marie-Thérèse Mercier. Alors, Marie-Thérèse Mercier, Certains me font le reproche qu'elle soit élue. Effectivement, il n'y a
Elle n'est pas d'abord chef d'entreprise avant d'être, en tout cas, responsable d'entreprise avant d'être élue, sauf erreur. Oui.
Et puis, c'est un parcours de vie avec Marie-Thérèse. On a été ensemble au CJD, on a été ensemble dans toutes les
différences. Donc, il y a un compagnonnage là qui...
Oui, et puis ça reste des amis, ça reste une amie. Et puis, on avait tous les quatre. Ce n'est pas une initiative de Rudy Iovino ou une initiative individuelle. C'était cette envie de créer quelque chose. Voilà. Donc, c'est Marie-Thérèse Mercier.
Donc, Marie-Thérèse Mercier, elle dirige le Ernst & Young à Montpellier. Grand cabinet d'études internationales, mais qui accompagne les entreprises et des collectivités, on peut le dire comme ça.
Exactement.
Ensuite.
Sylvain Jambon. Sylvain Jambon, qui était à l'époque mon directeur de cabinet quand j'ai eu l'honneur de présider la Chambre de commerce. Et qui restait un ami aussi, voilà, et avec qui on aime bien débattre, échanger, etc. Et aussi Frédéric Tubiana, voilà, que je connais depuis longue date. Et tout ça, c'est une histoire d'amitié.
On sent que ce compagnonnage, pour reprendre le mot, il s'est frotté, je dirais, à des activités, des responsabilités, des dossiers, des choses qui m'ont...
Oui, c'est les rencontres de la vie. Voilà, je rencontre Sylvain Jambon parce que je mène une campagne pour la Chambre de commerce et qu'on me présente Sylvain Jambon et ça devient un ami. Marie-Thérèse Mercier, on se rencontre au CJD, on ne se connaissait pas. Frédéric Tubiana aussi, c'est pareil, c'est un ami de longue date. Donc voilà, c'est la vie qui fait qu'on fait de belles rencontres et ces belles rencontres perdurent. Voilà. Et puis si on doit créer quelque chose, on le fait toujours avec les gens avec qui on s'entend bien. Sinon, ça serait voué à l'échec.
En effet. Alors... Pour que les auditeurs comprennent bien cette initiative et les conditions dans lesquelles elle va être prochainement mise en œuvre, quel est le premier thème que vous allez mettre en débat? Quand et comment? Et après, on balayera un peu l'ensemble de vos projets. Par quoi démarrez-vous, si vous pouvez nous le dire?
On a lancé trois ateliers en même temps.
Sur trois sujets différents. Ah, d'accord.
Alors, il y a un atelier qui est l'intelligence artificielle, l'IA, augmentatif ou diminutif pour l'homme. Il y a un autre sujet qui a été le nucléaire au secours de la planète, point d'interrogation.
En effet, ce débat est revenu ces derniers mois.
C'est un débat qui est revenu et qu'il faut mener. Il y a de tels enjeux à venir... qu'il faut savoir où on va. Voilà, je dis pas, notre rôle, ce ne sera pas de dire c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est de mettre carte sur table et de pouvoir, en tout cas, que chacun se fasse sa propre opinion du sujet.
Et troisième atelier.
Et le troisième, c'était est-on condamné à la surcroissance. Voilà.
Le débat sur. Mais qui est aussi en pleine actualité ces derniers temps.
Mais on a eu plein de sujets. C'est-à-dire qu'au démarrage, on a. Proposé plein de sujets, chacun l'a proposé. Après, on a fait un vote, un sondage, et il en est sorti trois. Après, c'est chaque atelier, l'IAS, une fois qu'on aura fait donc, notre première présentation, restitution en tout cas, les livrables qu'on pourra faire, on les fera de plein de manières différentes. Et l'IA, ce sera le 14 septembre au Centre Rabelais, où là, on va faire le procès de l'IA. Voilà.
D'accord, avec, j'imagine...
Donc, mise en scène,
un avocat, une avocate, un procureur...
Tout à fait.
Et puis un tribunal qui proposera peut-être de trancher...
Avec Aurèle qui viendra dessiner. Et en contrepartie, il y aura aussi l'intelligence artificielle qui dessinera aussi. Il y aura l'IA qui se défendra aussi par l'intermédiaire des différents ChatGPT ou autres. Et voilà, après, le but de ce procès n'est pas de dire vous êtes, l'IA est coupable ou pas. Voilà, on essaiera d'en tirer en tout cas, que chacun en tirera. Peut-être il sera rassuré, peut-être on aura créé de l'anxiété, mais en tout cas, on va aller à fond.
Alors vous ouvrez ces chantiers.
Oui.
Alors, ce qui m'a frappé, moi, en préparant cette émission et en regardant les documents que m'avait envoyés, c'est justement ce soin dès le départ. Apporter aux méthodes, aux différentes voies et chemins pour aboutir à une confrontation d'idées, une controverse qui soit quelque peu fructueuse, qui soit féconde. Hein. Oui. C'est parce qu'on monte un truc, on met un thème et rouler petit bolide. Oui. C'est pas ça. Il y a une espèce d'esprit de sérieux, en tout cas.
Parce qu'on est là pour
la recherche de la manière dont les idées peuvent être émises, argumentées, confrontées, pour qu'encore une fois, à l'arrivée, ça produise quelque chose qui ait du contenu, qui ait du sens, quoi. Hein.
Oui, si on n'arrivait pas à ce contenu-là, on aurait tout faux. Donc le but, c'est quoi? C'est que d'abord, comme je disais, c'est de produire l'intelligence collective. Ça, on y tient, c'est produire, nourrir l'intelligence collective. Alors, il y a les adhérents, les nousiennes et nousiens qui sont là, mais on a aussi, et là, c'est là où on revient aussi sur Montpellier, on a quand même une ville où on a des savoirs
et des ressources.
Et des ressources dans tous les domaines. Donc, voilà, on va s'appuyer aussi sur les experts. Alors, je dis Montpellier, mais peut-être des experts d'autres villes ou d'autres universités seront là pour essayer d'aller et de faire le mieux possible pour, en tout cas, apporter des réponses. Voilà, et chacun fera et décidera de... Voilà, on n'est pas là pour juger, on est là pour apporter cette intelligence-là. Et chacun aura son avis, voilà, et se fera...
Alors, dans le, bon, vous annoncez trois grandes thématiques transversales, les sujets sociaux de société, vous en citez un, l'environnement, et la démocratie et la citoyenneté. Dans les éléments de méthode que vous annoncez, vous dites, vous l'avez un peu évoqué, vous appuyez à la fois sur le savoir universitaire, les experts de toutes sortes, même s'ils ne sont pas à la fac, et sur la pratique citoyenne, ces experts du quotidien, c'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, auxquels certaines collectivités locales savent authentiquement faire appel. Alors comment, voilà, qu'est-ce que ça conduit à choisir ces deux sources? Une source, je dirais, relativement classique, hein, on va chercher les gens qui savent, les sachants, comme on dit parfois, mais aussi ceux qui sont, entre guillemets, sur le terrain et dont le parcours, l'expérience produit là aussi un certain savoir.
Alors, de toute façon, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que dès que vous allez créer ou mener une réflexion sur un sujet aussi important que l'intelligence artificielle, il faut, un, des bonnes volontés, c'est-à-dire des gens qui ont envie de bosser, hein, et puis il faut, après, des savoirs, voilà. Et donc, il faut s'appuyer sur des ressources pour pouvoir...
nourrir la réflexion.
Nourrir cette réflexion. Voilà, donc on essaye de le faire avec beaucoup de détermination et de sérieux. Sinon, quel intérêt ?
On sent une espèce d'excitation intellectuelle ou d'envie, de pêche, là, qui...
Oui, bien sûr. Bon,
le quatuor, le fameux quatuor
que vous avez présenté,
qui est assez frappante. Alors, vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie. Vous savez que dans notre société, dans notre bonne ville, toute innovation suscite des interrogations, voire la suspicion sur des intentions cachées, et notamment des objectifs politiques. Alors, il faut bien que je pose la question. À 3 ans des élections municipales, Nous est-elle la plateforme d'une future candidature? La question se pose d'autant plus que vos trois partenaires ont eu ou ont des activités dans le domaine politique, comme élue Marie-Thérèse Mercier, membre du groupe socialiste et citoyen d'Occitanie au Conseil régional, d'Occitanie, ou bien collaborateurs ou prestataires d'élus ou de candidats de gauche ou de centre-gauche pour Sylvain Jabon et Frédéric Lubiana. Alors, quid de ce que serait, certains vous la prêtent, hein, à tort ou à raison, de ces ambitions politiques cachées sur le nous?
Alors, effectivement, vous savez, c'est ce que je dis souvent aux journalistes, mais quand... Il y a une initiative, c'est-à-dire des... Je ne vais pas le limiter aux 4 personnes, les cofondateurs, hein, mais à tous les adhérents de Nous. Quand il y a des initiatives qui voient le jour sur Montpellier pour mener tous ces débats et tous ces sujets dans la cité, on essaye tout de suite de nous mettre dans des cases.
Bon. Oui.
Ah, il y en a eu
étiquetage,
deux.
Hein, étiquetage.
Alors, il y en a eu deux. Un, ça a été de dire, vous voulez faire de la politique, Et l'autre, ça a été de dire, vous voulez concurrencer le Cercle Mozart.
Oui, qui est une grande institution, alors, proche des milieux patronaux, grand lieu de réflexion et d'échange, assez huppé, on va le dire, oui. Et en tout cas qui occupe une partie notable de l'espace public à Montpellier depuis plusieurs années. Quoi.
Mais bien sûr, et qui est une réussite, Mozart. Donc, j'ai envie de vous dire, quand on me compare au Cercle Mozart, je suis très fier, parce que si au bout de 2 mois, on dit qu'on va concurrencer Mozart, je me dis, écoutez, Montpellier a fait de nous, en tout cas, une belle association. Non, je plaisante, mais il n'y a aucune concurrence entre Mozart et nous, parce que d'abord, on est différents.
C'était une de mes questions. Bon, on a bien vu que, bon, écoutez, vous répétez au micro d'Yes dans CFM ce que vous dites depuis le début.
Mais voilà, oui, mais parce qu'on ne m'entend pas. Oui.
On verra dans quelques années si ce que vous dites est prêt. On peut vous accorder le bénéfice, en tout cas, de cette confiance jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui vous distingue, en définitive? Vous l'avez un peu dit au début. Qu'est-ce que... On a compris un peu l'analyse originelle, les voies et moyens, les méthodes, les grands chantiers que vous entendez couvrir. Mais si on vous demandait, et d'ailleurs je vous le demande, qu'est-ce qui caractérise nous au bout du compte?
Déjà, c'est nos deux piliers fondateurs et intangibles qui sont la parité,
oui,
et la laïcité.
Ça sont les valeurs que vous partagez tous les quatre, notamment les fondateurs, là.
Entièrement. Les piliers de nous, ça a été, on ne pourra pas faire autrement que si on ne s'engage pas dans cette parité et cette laïcité. On n'est pas un cercle économique, si vous voulez dire ce qui va nous différencier.
Oui, parce qu'il y en a d'autres. Vous connaissez très bien ce milieu.
Tout à fait.
C'est inutile de refaire ce qui se fait ailleurs.
Ce n'est pas un club ou un centre, une association ou un think tank qui est fait de chefs d'entreprise. On a aujourd'hui, dans l'association, des chefs d'entreprise, oui, bien sûr. On a des cadres. On a des gens qui sont sans emploi. On a des étudiants, on a des jeunes qui rentrent dans la vie active.
Là, vous êtes assez satisfait à ce jour de la diversité des premiers membres de l'association.
Oui, et elle ne fera que grandir. Après, on a dit la parité. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a 5 hommes de plus femmes, et que demain, on n'a pas voulu instaurer un quota gravé. Notre ambition, c'est d'essayer, en tout cas, de tendre à quelques chiffres près à cette parité. Oui, je pense qu'on a des jeunes aujourd'hui qui rentrent.
On arrive au bout de notre échange, la Rudy Iovino.
Ouais, ça passe vite. Hein.
Qui, pour s'informer sur nous, pour adhérer, d'ailleurs, combien ça coûte? Comment fait-on?
Alors, le tarif est de 360 euros par adhérent. C'est 360...
Par an, donc.
Pardon?
Par an.
Annuel, oui.
D'accord.
Ces 360 euros peuvent être payés en 3 fois, 4 fois, 10 fois, voilà. Et on a aussi un tarif qui est... c'est déclaratif, c'est-à-dire que, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et 360 euros, ça compte. Donc, on a là un tarif à 12 euros.
D'accord.
C'est un principe de dire, on paye quand même quelque chose, parce qu'on
s'engage.
Et on paye 12 euros. Voilà. La différence aussi qu'on peut avoir, c'est qu'on travaille vraiment. C'est-à-dire, quand on se réunit, on bosse.
Ça, et après, on a compris.
On a appelé, c'est...
Vous pouvez peut-être des coups, mais en tout cas...
Un petit after-work, voilà, qui nous permet de débriefer de ce qui s'est dit et de boire un coup, parce que la convivialité aussi est importante.
Alors, une adresse peut-être, une adresse mail ou un contact que vous pourrez donner là, pour les gens qui souhaitent...
Alors, c'est contact@nous.fr, je crois.
Oui, c'est ça.
Fait, excusez-moi.
Très bien. contact@nous.fr. Eh bien, Rudy Iovino, merci. Puis on reviendra vers vous dans quelques temps.
Voilà, pour voir si je pars en politique.
Vous laisser, pour vous laisser cheminer un certain temps. Et en tout cas, on informera les auditeurs de vos grands
rendez-vous. C'est
gentil. Merci à vous.
Merci de m'avoir reçu.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
Chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.